Nous sommes à l'Institut des Libertés, une fois de plus, et c'est la deuxième fois que je vous reçois, non? Ou la troisième?
Troisième.
Troisième,
Troisième.
le temps passe. Troisième, et c'est toujours avec un grand plaisir. Et quand nous étions allés avec Emmanuel à Strasbourg, on avait essayé de vous
Exactement.
inviter à dîner, et puis malheureusement, vous étiez malade, je ne sais pas
Absol
quoi.
je rendais mon manuscrit du livre d'aujourd'hui et je suis tombé malade dans la nuit. Alors là,
Vous étiez
c'était
fatigué.
exactement.
Donc c'est un livre qui est tout à fait passionnant parce que ça s'appelle Nos vrais maîtres par Guislain Bénessa. Le voilà, vous le montrerez aller. Et vous abordez dans le fond l'esclavage dans lequel nous sommes en train de tomber, à la capture de nos systèmes juridiques par des gens mal intentionnés qui essayent d'enlever la souveraineté des peuples et du peuple français par l'intermédiaire du droit. Et donc vous nous donnez les noms de tous les complices de Monet qui ont trahi la France dans l'espoir de faire naître un État européen. Et pour ça, vous donnez les noms de ceux qui ont créé, je sais pas, la Cour européenne des droits de l'homme ou toutes les autres cours de justice en Europe. Et vous nous montrez que dans le fond, beaucoup d'entre eux étaient d'anciens pétainistes ou d'anciens nazis. Ce qui est un peu gênant quand même.
Ce qui est un petit peu gênant, effectivement. Alors, je dis tout de suite que depuis que le bouquin a été publié, qu'il est sorti, j'ai eu quelques remarques un peu désobligeantes sur le fait que j'essayais de nazifier ou de péténiser Jean Monnet. Et je dis non, non, pas du tout. Je constate simplement que les armes construites dans l'opacité la plus totale, hein, parce que tout ça est une immense machination très opaque,
Très
où en fait
opaque.
les gens ont conçu des règles, des normes, des directives, tout ce qui aujourd'hui...
Personne ne leur a donné le mandat.
Absolument, sans aucun mandat. Ce qui était l'objectif du bouquin, franchement, les premières lectures, c'était d'aller jeter un œil dans le laboratoire, en fait, de laboratoire de la matrice qu'on a conçue, et en fait, en commençant à exhumer un nom, puis un deuxième nom, puis un troisième nom, je me suis dit, mais en fait, j'ai un bouquin que je ne pensais même pas faire ainsi, c'est de refaire le parcours de ces gens qu'on ne connaît pas, qui s'inscrivent dans l'ombre de Monet, qui se poursuivent les uns les autres, qui s'autonoment, qui s'entraident, qui se cooptent, et qui créent une espèce de lexique, de grammaire, dont on ne sait même pas à l'époque exactement ce que ça veut donner, ce que ça
Oui,
va donner,
oui.
et ça va donner cette espèce d'Europe fédérale qui ne dit pas vraiment son nom et qui avance tel un rouleau compresseur depuis 1950 à 2026.
C'est tout à fait très étonnant parce qu'on se rend compte que ces gens-là créent des règles de droit et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que la quasi-totalité de ceux qui nous ont gouvernés ont accepté qu'il y ait un droit supérieur à celui de la France qui soit créé en dehors de la France et qui s'applique chez nous. C'est-à-dire, c'est une perte de souveraineté totale, quoi. Abandonner. Je ne peux pas imaginer que dans un pays normal, il puisse y avoir un droit supérieur à la Constitution française. Les Américains n'accepteraient jamais un droit qui soit supérieur à la Constitution américaine. Vous pouvez toujours vous brosser. Et même le type, on le mettrait en prison s'il essayait.
Absolument.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu toute une série de hauts fonctionnaires, tout ça, vous donnez leur nom, qui ont trahi notre pays volontairement, en
Volontairement.
connaissance de
Oui,
cause.
en fait. Ce qui est formidable, épouvantable en même temps, c'est que ce que vous décrivez très justement, le fait que le droit français aujourd'hui ne pèse plus grand-chose, vu le droit européen, la chape de plomb, le Mercosur actuellement est le dernier avatar
Absolument.
de cette espèce d'effroyable aventure, où au bout les agriculteurs râlent contre des directives à juste titre, dont on pense de façon presque logique, dont on considère logique qu'elles valent mieux que la loi, expression de la volonté générale, à la limite qu'elle vaille mieux qu'un référendum, qu'une décision souveraine du peuple, dans les urnes, je veux dire, d'une manière ou d'une autre.
Et
C'est
on
ça qui
a
est
même
merveilleux.
l'impression que s'il y avait un référendum là-dessus, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel l'interdirait en disant que ce référendum n'est pas conforme à ce qui arrive de ces gars-là, que personne n'a élu, que personne ne contrôle. Et
Exactement.
c'est quand même. Donc.
Et c'était, si je puis me permettre, c'est ça, à mon avis,
Oui.
le vrai problème que nous avons depuis des décennies. Moi, je l'ai vécu à la faculté, je l'ai appris à l'université, même si, Dieu soit loué, je n'ai pas été contaminé par cette façon de voir les choses. Il n'empêche, il manquait, pour moi, il manquait quelque chose, c'est de ne pas croire, d'arrêter de croire plutôt, que c'est une opération du Saint-Esprit.
Oui,
D'arrêter de croire que c'est automatique, que c'est normal, que c'est logique, que c'est ainsi. Et ce que j'ai voulu faire, c'est retracer une espèce de contre-histoire de tous ces petits hommes gris, de tous ces hauts fonctionnaires, de cette chape de plomb, de ces hommes qui ont tiré le pistolet, qui ont utilisé le pistolet, qui ont tiré les uns après les autres sur la France, en fait, sur notre capacité d'agir, sur le peuple français, et qui l'ont fait en connaissance de cause, l'un après l'autre, et le plus fascinant, en se connaissant, en s'entraidant, en passant par derrière,
en se sélectionnant,
en passant par derrière les politiques, en arrivant même à faire la peau de De Gaulle, hein, parce qu'en réalité, ils ont, dès le départ de De Gaulle, ils ont réussi à annuler, en quelque sorte, la particularité, la geste gaullienne des années 60. Et en fait, tout ça est passé tellement crème qu'ils se sont retrouvés à des postes stratégiques de façon totalement indue, et en même temps, c'est vu que ça passe à l'abri des regards, on s'en rend pas compte. Et au beau, vous avez comme ça une cour, une deuxième cour, puis une troisième.
Les gens font pas attention au droit.
Oui.
Ils ont, dans le fond, on s'est fait capturer notre droit, et les hommes politiques s'en foutaient parce que les élections cantonales arrivaient ou les élections législatives. Donc, ils n'ont pas compris que qui impose son droit impose sa volonté, quoi. Et donc, on a un truc très curieux aujourd'hui. Il faut qu'on se couche, non plus parce que c'est la volonté du peuple français, mais parce que c'est l'état de droit. Et cet état de droit, c'est rien du tout si ce n'est un droit d'un état dont personne ne veut.
Exactement.
C'est quand même extraordinaire.
Ah mais complètement,
c'est surréaliste.
C'est surréaliste parce que pendant longtemps, en fait, et je le raconte en détail, pendant longtemps, il y avait un mot-clé qu'on utilise toujours qui s'appelle la primauté.
Oui.
La primauté a été inventée par ces fabricants d'Europe, hein, complètement sans mandat ni rien du tout, qui ont inventé un concept de primauté qui était censé dire l'Europe prime sur la nation, sur le droit national, ce qui veut dire que on se retrouve en, comment dire, corseté.
Ça venait des États-Unis.
Ah oui.
Le droit fédéral, de temps en temps, s'impose, s'il faut par la force, comme on l'a vu au moment de la guerre de sécession, mais sur les droits des États. Donc, si j'ose dire, les États-Unis ont été dès le départ un État fédéral. Là, on a imposé ça à des nations. Des nations qui n'avaient rien demandé à personne et qui s'étaient pas du tout... Parlez-moi un peu du premier, là, que je trouve fascinant, ce bon serviteur de Vichy, là, antisémite.
Le parfait serviteur, effectivement. Alors, Maurice Lagrange, c'est un... Je vous le dis tout de suite, hein, c'est un type dont j'avais jamais entendu
parler.
Pendant mes études. Et j'ai quand même fait ma thèse à la fac, j'ai fait mon doctorat, etc. Donc, j'ai eu le temps de farfouiller un peu, vous voyez. Je n'avais jamais entendu parler. Je suis tombé un peu par hasard sur lui. J'ai commencé à faire 2-3 recherches et je me suis dit, tiens, d'une part, on n'en parle pas beaucoup et quand on en parle, on m'a mis la puce à l'oreille. Je suis tombé, je vais vous raconter une petite histoire sur un article qui parle de lui de façon pas très claire, mais on comprend qu'il a un passé sulfureux. Et à la fin, qui écrit la chose suivante, c'est, il faut se méfier des recherches sur lui. Ça pourrait donner du grain à moudre aux populistes. Ça veut dire que il faut faire attention à ne pas révéler, vous voyez, les arrière-cuisines de Jean Monnet et de ce genre de type. Évidemment, ça m'a mis la puce à l'oreille, je suis allé jeter un œil, et j'ai assez rapidement trouvé une trace du personnage, qui est donc Maurice Lagrange, un haut fonctionnaire classique à la française dans les années 30, magistrat au Conseil d'État, il fait sa petite carrière, il est recyclé par Vichy, mais en fait, plutôt, il se recycle dans Vichy parce qu'il y est très bien. C'est-à-dire qu'il vive le maréchal, vive la Révolution nationale, et donc il va mettre son talent de juriste au service de maréchal Pétain pour concevoir le statut des Juifs. Donc il va être le metteur en scène du statut des Juifs voulu par la Révolution nationale pour exclure les Juifs de la fonction publique. Et d'ailleurs, il est tellement... Comment dire, il y tient tellement qu'il reproche à Pétain de ne pas assez exclure les Juifs lui-même, donc il va pousser le curseur à réclamer l'exclusion la plus radicale possible. Et c'est cet homme-là qui va passer entre les gouttes à la Libération.
Comment c'est possible?
Ah mais ça, il ment comme un arracheur de dents à la commission, à la Libération, il ment comme un arracheur de dents, il raconte, et la phrase est terrible je trouve, il dit qu'il a toujours été du côté des Juifs et de tous les persécutés. Donc, on sait pas trop, il ment, ça passe à l'as.
Il avait des amis déjà?
Alors, là, je pense qu'il y a quand même le fatras de la guerre dont on ne sait pas exactement qui a été récupéré, d'autant plus qu'en 42, il a arrêté sa basse besogne. Ça a vraiment été un actif de 40 à 42.
Ah oui, c'est pour ça.
Donc, ça a joué. Et puis, par contre, ce qui est fascinant, c'est d'une part, il va être remercié par le maréchal pour la qualité de son œuvre, il va passer entre les mailles du filet et il va être récupéré par les Américains pour dénazifier la fonction publique allemande au sortir de la guerre, lui l'antisémite, c'est merveilleux, et 5 ans plus tard, il va, par un jeu de... Il y a plusieurs scénarios potentiels, je pense que c'est les Américains qui vont le conseiller à Jean Monnet qui évidemment est de cheville avec les Américains, et il va se retrouver à devenir le stratège juridique de Jean Monnet pour concevoir la fameuse les juges européens. Donc en fait, les juges européens, la façon dont ils fonctionnent, c'est une invention de Maurice Lagrange, choisie par Monnet, à mon avis, sur le conseil des Américains, et qui est donc un recyclage du vichisme et de l'antisémitisme typique des années 40-42. Juste pour terminer, je trouve ça merveilleux, c'est que vous mettez ça en lien avec sa disparition dans les années 80, il a droit à tous les éloges, à tel point que le président de la Cour européenne, en gros le chef des juges, dira en 86 que la France n'aurait pas pu trouver meilleur homme à mettre à la Cour. C'est merveilleux. C'est merveilleux.
C'est très étonnant. Donc ça a été celui qui était à l'origine des juges. Et puis, donc il y avait Monnet. Et Monnet, ce qui est quelque chose qui m'énerve quand je me balade en France, c'est que vous avez des collèges Jean Monnet partout. Ça. Et vous vous dites quand même, c'est un homme qui a trahi son pays, mais pendant toute sa vie, quoi. Toute sa vie, il a essayé de descendre de Gaulle auprès des Américains, puis il a toujours été payé par la CIA, et puis ensuite il a monté toutes ces saloperies, toujours dans l'espoir de détruire la nation française. Alors j'aimerais vous poser une question qui m'a toujours beaucoup tracassé, c'est ces ennemis de la France, et ce parti de l'étranger, comme disait de Gaulle, pourquoi détestent-ils la France à ce point-là? Est-ce que vous avez réfléchi sur le... C'est juste pour avoir prendre des postes, essayer d'avancer, de créer une autre administration qui prendra du pouvoir? C'est juste l'imbécilité administrative poussée à son extrême? Ou y a-t-il autre chose?
Écoutez, alors, ça n'a pas réponse à tout. Je vais commencer par un argument très simple, mais tout de même. Vous savez, il y avait un philosophe dont j'ai oublié le nom, là, qui m'échappe, philosophe français, dont le rêve était de devenir haut fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il voulait quitter les rives du travail intellectuel pour devenir un haut fonctionnaire européen, vous voyez, un petit homme gris de plus. Donc, je pense qu'il y a une fascination réelle pour le fait de devenir un haut fonctionnaire loin des bases œuvres, finalement, de la vie concrète. Je pense qu'il y a une fascination pour ça. Ensuite, alors là, peut-être que j'ai trop d'hostilité à leur égard, je ne sais pas, mais j'ai l'impression souvent dans les cercles que je côtoie, je vous cache pas, que plus on est intelligent ou plus on a de diplômes, plus on est censé être du parti de l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être intelligent et d'aimer son pays. C'est comme s'il y avait une opération mentale tout à fait spécifique qui fait que lorsqu'on est à l'ENA ou qu'on fait une thèse en droit ou qu'on va à Sciences Po, etc., ça irait de pair avec un amour du déracinement, un amour du voyage, mais du voyage mal compris, c'est-à-dire un amour de travailler pour tout le monde, sauf pour soi-même, sauf pour les siens, comme s'ils étaient vaguement honteux, vous voyez, une espèce d'opération de traîtrise.
Donc, c'est très intéressant, vous êtes en train de dire donc que si on est intelligent, il faut être vendu à l'étranger, quoi, parce que c'est ce que je reconçois tous les jours. Moi, je dis aux gens, vous savez, dans le fond, j'aime bien mon pays, quoi. Je suis rentré pour, ce que je dis toujours en rigolant, je suis rentré il y a 10 ans en partant du principe que si le Titanic France coulait, je voulais être sur le pont avec tout le monde en train de chanter plus poète à mon Dieu, vous savez, comme sur le Titanic, parce que je m'imaginais pas mourant dans un hôpital à Hong Kong ou à Los Angeles. Je veux mourir en France tranquillement. Et quand j'ai dit ça à certains de mes amis à Paris, qui sont tous intelligents, qui font partie de ce milieu, comme ça, ils ricanent. Donc, si vous voulez, c'est une passion aussi simple que l'amour de son pays, enfin, un truc tout à fait normal, qui a été pratiqué depuis le début des temps, c'est considéré avec mépris par les gens intelligents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement faux dans notre enseignement.
Complètement. Alors là, vous savez, c'est l'histoire que je voulais raconter, j'y tenais, elle s'est presque imposée à moi, je n'ai pas vraiment choisi. C'est que je voulais relier les points de tous les gens qui pensent contre nous, c'est-à-dire qui se sont mis à penser mal et qui se sont passé le flambeau. Parce qu'évidemment, il y a les historiques, les Maurice Lagrange dans les premiers temps, mais ensuite l'idéologie se diffuse. Donc ça devient, au début c'est une révolution, d'ailleurs c'est un mot qui revient tout le temps, jusqu'en dans les années 80, ils veulent faire une révolution. Et la révolution, elle est d'apprendre, d'enseigner, de transmettre l'idée qu'il faut arracher le pays à sa chair, à son existence, il faut le rendre monade, il faut que les gens deviennent, vous savez, des voyageurs d'un hall de gare, comme ça, qui vont de capitale en capitale au nom de la libre circulation.
C'est l'idée d'Attali, quoi.
C'est l'idée d'Attali.
Qui fait partie de ces gens-là, soi-disant intelligents.
Absolument. Absolument. Oui, mais Je prends cet exemple pourquoi? Parce que déjà, ce qui m'a frappé, c'est que vous prenez le président de ces fameux juges européens. Dans les années 70, un de ces présidents français, il écrit, dans les années 60, il écrit un édito on dirait du Jacques Attali 30 ans avant. C'est-à-dire, un jour, le droit va, vous savez, ouvrir les frontières, libérer les énergies, on pourra passer d'un endroit à l'autre, comme si finalement l'agriculteur du Morbihan ou d'Alsace, d'ailleurs, dont je viens, n'existait plus vraiment. Vous voyez, tout ça va s'interpénétrer. C'est les phrases très... C'est du discours, c'est la liquidité avant l'heure, en fait, parce qu'on n'est pas encore dans la liquidité des années 90-2000, mais c'est déjà là. C'est déjà là. Et deuxième chose, vous dites sur l'enseignement, alors là, je ne peux que vous rejoindre. Vous savez, on dirait que c'est chic. C'est chic. Ça fait bien. Alors, est-ce que ça fait bien seulement dans les dîners mondains? Je ne pense pas. Je pense qu'à l'origine, c'est chic de penser contre soi-même. C'est-à-dire, il y a une idée du déracinement, etc. Il y a une idée de ne pas vraiment défendre son pays. C'est has-been, c'est le temps d'avant, etc. Mais je pense aussi, après, faut le rajouter tout de suite. L'ignorance, ensuite, a fait son œuvre. Les premiers temps, c'est la révolution. Les deuxièmes temps, c'est la poursuite dans l'ignorance. C'est qu'à force d'apprendre à marcher à l'envers, on a oublié qu'il y avait des gens qui marchaient à l'endroit. Donc on se met à penser mal en pensant que c'est normal de penser mal. Résultat, ma génération, parce que moi j'ai connu ça, je suis né dans un monde dans lequel il était normal de ne pas oser parler de patriotisme, de ne pas oser défendre son pays, de ne pas penser d'abord aux siens avant les autres. Et tout ça, que pour moi j'estime être, c'est penser droit, avoir une colonne vertébrale, c'est devenu désuet. Maintenant, dans les pires des cas, c'est carrément suspect. On devient, vous voyez, populiste. Enfin bref, j'entends tout.
Vous devenez nazi à droite, oui, voilà. Etc. C'est simplement, si vous dites « moi j'aime mon pays », vous êtes immédiatement classé dans les crétins irréductibles.
Oui, soit dans les crétins, donc celui qui n'a pas accepté l'enseignement qu'on lui a donné, ça c'est la première case, ou alors donc le crétin, ou alors le dangereux, c'est le type suspect.
On fait ce que on l'excommunie, c'est-à-dire voilà. Qu'il a plus le droit de parler, il a plus le droit, il passe jamais à la télévision, etc. Donc, mais là je viens de faire d'ailleurs, c'est paru cette semaine sur notre site là, j'ai un très gentil curé à Montfavet que j'aime beaucoup, qui s'appelle le père Milan, qui est mon curé, qui connaît très bien Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, qui est très très. Et donc là, je lui ai demandé de faire une émission avec nous la semaine dernière sur le patriotisme, que c'était une vertu chrétienne, et qui voulait dire simplement que dans les 10 commandements, vous avez tu aimeras ton père et ta mère, et que le patriotisme, c'est l'endroit où votre père est enterré. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être chrétien si on n'est pas patriote.
Je vois. Oui, je vois.
Et donc, c'est bon, pour l'instant, on fait cette humilité vive, c'est pas très bien, mais on va essayer avec lui de reprendre toutes les fondations de l'église chrétienne jusqu'au milieu du 19e où ils ont commencé à déconner, et puis on va toutes les sagesses qui étaient là, et on va essayer de les remettre petit à petit devant les gens qui nous écoutent en disant, vous savez, c'est comme ça qu'on doit penser, c'est pas autrement. Le patriotisme, c'est une vertu.
C'est une vertu, ce n'est pas une tare.
Ce n'est pas une tare. C'est une vertu et c'est comme ça qu'on bâtit les... Donc, vous avez donc ce mouvement vers un droit qui nous échappait et un mouvement de condamnation, finalement, de ce qu'était la France.
Complètement. Absolument.
Et
absolument.
Les deux ont été de pair.
Les deux ont été de pair, exactement. Alors...
Et on a aujourd'hui un président de la République qui nous parle de souveraineté partagée. Or, c'est comme où vous êtes enceinte ou vous ne l'êtes pas, où vous avez la souveraineté... Ou vous l'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une souveraineté partagée, c'est une souveraineté qui n'existe pas.
Exactement. Et le pire, d'ailleurs, c'est que lorsqu'elle est partagée, elle finit par ne servir ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que c'est ça le problème, d'ailleurs, c'est que l'Europe, qu'on en pense qu'on veut, l'Europe n'est pas souveraine. Donc, elle fait tout pour nous détricoter, pour essayer de récupérer la souveraineté. Mais vu qu'elle n'a ni substance, ni mémoire, ni réalité concrète, ni quoi que ce soit, elle n'est pas souveraine.
C'est pas une nation, c'est une civilisation.
Exactement.
Donc,
exactement.
Vous pouvez pas créer. Donc, on essaye de créer un État européen, alors qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est complètement idiot.
C'est complètement idiot, mais toute l'opération de ces gens, donc ces juges qui se sont succédés, c'est de dire, déjà, il faut quand même le rappeler, ils ont pu faire tout ça parce que personne ne jetait un œil dans leur laboratoire. C'est parce qu'ils ont été un peu entre eux pendant longtemps, que personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, que tous ces... Vous savez, le droit, c'est une grammaire d'experts. Je vis avec, moi, c'est mon métier, mais il n'empêche, je suis extrêmement sceptique lorsque ça devient trop compliqué. Je me dis, oula, en général, ça commence à sentir mauvais.
Dès que ça dépasse les 10 commandements, vous pouvez commencer à avoir des doutes.
En tout cas, j'ai rapidement des doutes lorsque ça devient, vous savez, l'opération complexe des prétendus sachants de fin de couloir, quoi. J'ai des doutes.
C'est ce que je dis toujours aux jeunes avec qui je peux travailler. Je leur dis, vous savez, on fait des recherches, on fait des trucs. Si c'est pas beau et si c'est pas simple, voilà. C'est pas intéressant.
C'est pas du tout. Écoutez, je sors là deux secondes, mais qui me fait le lien. J'étais en voyage au Liban il y a quelques années. Et par le hasard des choses, je me suis retrouvé à partager un taxi avec un prof de fac, spécialiste d'esthétique. Vous voyez, c'est pas du tout mon rayon. Mmh. On discute un peu, etc. Puis au bout d'un moment, je lui demande, je comprends pas trop ce que tu veux dire par le beau. Et moi, le beau dans mon, vous voyez, dans mon cerveau peut-être de prétendu crétin, j'ai quand même fait quelques études, même si les études ne veulent rien dire par les temps qui courent, surtout pas par les temps qui courent. Mmh. J'ai dit, non, mais qu'est-ce que tu veux dire par beau? Moi, je pensais au nombre d'or, vous voyez, l'harmonie, l'équilibre, etc. Oui. Il me dit, oh, ah non, surtout pas. Tout ça, c'est totalitaire. C'est fasciste.
Voilà, c'est
génial. Et quand il m'a indiqué ce qui était le beau pour lui, c'est ce qui est le laid pour moi. Vous voyez, c'était littéralement invraisemblable parce que c'est des, on a l'impression qu'on a fait muter un monde en l'emmenant vers l'inverse même de ses piliers fondamentaux en matière d'esthétique dans ce cas de figure. Mais dans le droit, on a fait rigoureusement la même chose.
C'est ce que disait Roger Scruton, vous savez, le grand philosophe.
Absolument.
Lui, il a dit des choses sur le beau, justement.
Oui.
Et ces gens-là, ils font du lait.
Ils font du lait.
Enfin, pas du lait de vache, hein, mais ils font des choses laides.
Oui.
Et ces choses laides ont des résultats désastreux.
Oui.
Et donc, on voit. Alors, je vais vous poser une question, je suis confus parce que elle n'est pas convenable, cette question. Est-ce que c'est une œuvre diabolique? Est-ce qu'il y a un esprit diabolique qui souffle sur la France? Vous voyez, c'est une question bizarre, hein. Je ne sais pas si je devrais la poser.
Je pense que vous avez raison de la poser. J'ai employé le terme récemment sans vraiment y prêter attention. Et après, ça a tourné un peu. J'ai commencé à réfléchir un peu en me disant « Non, assume-le, Guilin, c'est une œuvre diabolique. » Diabolique parce que, en fait, vous savez, je pense que dans tous les domaines, lorsque c'est la fêlure de Fitzgerald, la nouvelle de l'auteur, enfin de Scott Fitzgerald, lorsqu'il y a une fêlure au début, ça finit toujours par s'ébrécher petit à petit jusqu'à la destruction. L'Europe a été créée par un type, Jean Monnet, qui a littéralement demandé à Roosevelt de détruire le général de Gaulle. Il l'a écrit. Donc ça veut dire que...
Fallait le tuer.
Voilà. Alors, encore une fois, je suis même pas, on peut penser ce qu'on veut de Gaulle. Il n'empêche, le fondateur, après la seconde guerre mondiale, résistant, etc., Monnet a voulu le détruire pour servir la France aux intérêts américains. Mmh. C'est ça l'objectif. Il voulait Giraud, vous savez, toute l'histoire de la seconde guerre mondiale. Ensuite, cet homme-là a été l'architecte, moi je l'appelle souvent le parrain, vous voyez, parce que il a pris en charge l'opération, donc il s'est retrouvé, Jean Monnet, à lancer l'opération européenne.
Subventionné par la CIA tout du long.
Et, évidemment, subventionné par les Américains. Et après, en plus, il a voulu, vous savez, je raconte, c'est une anecdote, mais qui me semble tellement parlante. Dans les années 60, Monnet rêvait qu'il ait des universités européennes à travers à travers les 6 pays à l'époque de l'Europe. Dans les années 50-60, De Gaulle s'y est opposé parce qu'il a parfaitement compris que plus rapidement on laisserait l'enseignement de l'Europe molle à la Monnaie se diffuser, plus vite on deviendrait des apatrides. Donc il fallait stopper la machine. Or, qui finançait ces espèces de projets d'université? Ford et consorts du côté des États-Unis.
Ford, oui.
Exactement. Qui finançait le comité d'action Jean Monnet des États-Unis d'Europe et donc qui était à la manœuvre avec lui pour diffuser littéralement l'esprit
de destruction des nations.
Nous ensevelir petit à petit. Donc, y a-t-il un diable? Oui, je crois qu'on en a un. Il s'appelle Jean Monnet. Et le problème, c'est que la cour qu'il a constituée autour de lui, qu'on le veuille ou non, certains, je pense, sont des purs. Le problème, c'est que les purs eux-mêmes sont parfois franchement pas des saints. Vous voyez, c'est...
Non seulement ça, mais un pur peut suivre des idées fausses et vous amener au désastre. Hein. On en a connu quelques exemples dans l'histoire de France. Donc, l'idée, si vous voulez, que parce que j'ai des intentions pures, je vais arriver à des résultats intéressants, ça se discute. Hein.
Ah, mais ça se discute fondamentalement. Je vous donne... Vous savez, l'anecdote est quand même, je trouve qu'elle est troublante. Le ministre de l'économie du général de Gaulle, Jacques Rueff, vous savez, qui a relancé la machine en 58 avec lui, il va siéger parmi les juges européens. Il va être un des premiers juges français à la Cour de justice. Or, à côté de qui s'assoit à la Cour? À côté de Maurice Lagrange. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Rueff, juif, a souffert du statut des juifs, rédigé par l'antisémite, qui s'est installé à côté de lui parmi les juges européens et qui ne lui a jamais, a priori, révélé son passé. Alors je ne dis pas que tout le monde est toujours tout blanc, c'est pas le sujet. Et parfois, les grands hommes d'État sont aussi des gens qui ne pratiquent ni la transparence, ni l'ouverture à tout craint. C'est pas le sujet. Mais c'est qu'en fait, on se rend compte que par-delà le parrain Jean Monnet, les petits hommes qui vont l'accompagner petit à petit, la France, en fait, ils s'en foutent. Ils sont soit dans des cercles comme les mouvements européens, soit à son comité d'action, soit ils rêvent de promotion à Bruxelles, petit à petit. Et vous savez, il y a un homme qui m'a... C'est pas le méchant le plus emblématique de l'histoire, mais un homme qui m'a fait... Moi, j'avoue qu'il m'a fait réfléchir. C'est le patron juridique de la commission dans les années 60. Un Français, Michel Godet, qui écrit froidement, enfin qui répond dans les années 80 froidement, on lui demande « Est-ce que tu étais bien là-bas ?» Vous voyez, à Bruxelles, etc. Et il répond que c'était tellement bien de partager ses week-ends avec ses collègues parce qu'il était enfin sorti, alors je paraphrase, je sais plus exactement la formule, mais il était enfin sorti des week-ends de triste, des nations dans lesquelles nous sommes habituellement. Ce qui veut dire que il n'est plus, si vous voulez, il ne veut plus être à Paris, il veut plus être chez les siens, il se sent plus français. C'est devenu officiellement un apatride dont la volonté totale, c'est de passer ses week-ends exclusivement avec des apatrides. Je trouve que cette opération de renversement progressif, elle est terrifiante parce qu'elle dit quelque chose de leur psychologie profonde. Vraiment, je pense que c'est des gens qui sont quelque part diaboliques. Mais je pense aussi imaginer les répercussions
mais surtout,
sur l'enseignement, les jeunes, la suite. Je veux dire, c'est dramatique.
Mais il y a aussi quelque chose qui est très important là-dedans, c'est que tous ces gens qui sont comme ça à l'extérieur, qui n'aiment pas la France, comment dire, mais à ce moment-là, ils se retrouvent automatiquement dans une position d'hypocrisie. Mmh. C'est-à-dire qu'il est difficile d'être un haut fonctionnaire français et de travailler pour je ne sais pas quoi, l'Europe et contre la France. Et pourtant, ils le font. Donc, ce sont des traîtres. Enfin, quelque part, fondamentalement, ce sont des traîtres. Et c'est... Votre livre m'a absolument bouleversé parce que il pose la question, dans le fond, de la servitude volontaire, vous vous souvenez?
Oui, absolument. La Boétie, oui, absolument.
La Boétie. La servitude volontaire, ces gens qui se précipitent avec bonheur pour mettre les autres en servitude sans se rendre compte qu'ils s'y collent eux-mêmes aussi.
Exactement. Absolument. C'est, vous savez, ça c'est dans mon précédent bouquin, je le terminais avec une phrase de la Bible. Vous savez, on peut pas servir Dieu et Mammon.
Absolument.
Et je paraphrasais en disant, on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois, parce que dans la Bible, il est précisé que si vous en servez deux, en fait, vous serverez toujours, de quoi qu'il en soit, ce sera une mauvaise action, parce qu'aucun des deux ne sera satisfait. Et le problème...
Et vous non plus,
exactement. Parce que il y a aussi, vous savez, je ne veux pas juger leur pulsion de vie, c'est des portraits que je brosse, mais il n'empêche, ça pue la mort. Vous voyez ça?
C'est la civilisation de la mort, une fois encore. C'est-à-dire, c'est ce que disait Jean-Paul II, c'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent, ils ont amené l'avortement, l'euthanasie, tous les trucs, si vous voulez, d'empêcher la vie, ils sont toujours d'accord. Et là, ils tuent la nation qui est, dans le fond, la mère patrie, allez.
Absolument. Ah, mais absolument.
Si on n'a pas de mère, on ne peut pas avoir d'enfant.
Mais complètement. Si aujourd'hui, Jean-Michel Apathy, je crois que c'était lui, me semble-t-il, qui avait dit que lui, président de la République, il détruirait le château de Versailles. Je crois parce qu'il faut abolir la fierté nationale, etc. Si, évidemment, l'imbécile d'Apathy peut nous dire ça aujourd'hui, c'est parce que tous ces petits hommes ont fabriqué ce monde. Ils ne sont pas les seuls. Les philosophes, les intellos, des diplomates, etc. C'est une œuvre collective, évidemment. Mmh. Si avec des juristes, à la limite, on saurait qui abattre plus rapidement, si je puis dire. En tout cas, on saurait qui liquider.
Mais c'est eux qui sont dans les soutes en train de mettre les boules au moins.
Oui, c'est justement ça. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est pas les plus médiatiques, naturellement. Maurice Lagrange, presque personne ne connaît. J'allais dire, la fin de mon livre, le dernier portrait, c'est Mathias Guillaumard, l'actuel président de la CEDH, la Cour peine des droits de l'homme. Il est pas non plus médiatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que sans eux, on pourrait se libérer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont conçu la bécane, rouage par rouage, ce que Jean Monnet appelait, vous savez, la théorie des petits pas,
oui,
la fameuse...
L'effet cliqué, là, on peut pas revenir arrière.
Exactement, avec la pseudo-maestria juridique pour justifier la chose. Mais en fait, tous ces gens ont conçu des verrous, qui sont les petits pas de Jean Monnet, sauf que eux, ils ont mis les boulons, les verrous, etc., les cadenas, et au bout, ils vous disent, mais c'est normal qu'on puisse rien faire, puisque tout ça est cadenassé.
Comment on s'en sort? Il faut simplement sortir de tout ça, envoyer une lettre. C'est vous qui m'avez dit qu'il suffisait d'envoyer une lettre commandée.
On en parle absolument, il y a quelques
je le
années.
Dis tout le temps.
Non mais. Alors figurez-vous, je vous ai entendu le dire, je me suis dit, tiens, c'était une discussion que nous avions eue tous les deux la dernière fois, je crois.
Exactement. Allez. Je le dis tout le temps, moi, ils me disent, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de la République? Je ferai une lettre commandée.
Oui, absolument.
J'ai beaucoup aimé le coup de la lettre commandée, je trouvais ça au poil. Donc, on envoie une lettre commandée et on reprend toute notre. C'est-à-dire, venons-en aux élections présidentielles. À ma connaissance aujourd'hui, il n'y en a pas un des candidats qui dit « on va reprendre toutes nos souverainetés ». Point
aucun.
Barre.
Zéro. Ah non, zéro, zéro. C'est-à-dire, le problème, il est très simple. Et franchement, j'en profite pour le dire, je suis ravi de vous voir aussi pour ça. Les obédiences politiques, j'en ai pas. Je ne suis dans aucun parti. J'ai des amis, d'ailleurs, à droite et à gauche. Donc, je me fous éperdument des histoires d'appareil. Mais si on est un peu froid, la gauche, on va dire révolutionnaire, si tant est qu'elle l'ait encore été il y a quelques... Ben, bref. Cette gauche révolutionnaire, elle est aux ordres de Bruxelles une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus du tout de débat sur sortir de l'Europe. Au contraire, ils y sont très bien.
Bah oui, ça donne des moves, ça donne des postes.
Exactement. Et la droite.
For the boys.
Exactement. Et la droite est partagée, puisque le problème, c'est que le RN ou XFN avait une position dure il y a 10 ans qu'elle n'a absolument plus. Donc maintenant,
Maintenant, il faut accepter par les autres petites filles dans la cour du château. C'est qui est très, très embêtant, ça. Si vous voulez vous être accepté dans la cour du château, vous devez mettre une jolie robe. Hein.
C'est très compliqué. Donc maintenant, c'est la réforme de l'intérieur. Donc on nous dit, on va trouver l'unanimité des États membres pour modifier les traités, etc. Je rappelle juste, parce que je le rappelle dans mon bouquin, largement, parce que c'est un peu un des héros de mon livre sur les juges, hein, c'était Michel Debré, qui lui a hurlé comme un beau diable dans les années 70-80 sur les juges européens. En 81, il y avait quelques États seulement, une quinzaine en gros, et c'était déjà l'horreur pour penser réviser les traités. Alors imaginez, à 25, 26, 27, 30, c'est littéralement impossible. Donc,
des traités dont on ne peut pas sortir et qui nous condamnent à mort, il me semblerait assez logique qu'il y ait des hommes politiques qui auraient les intérêts de la France à cœur, qui disent, vous savez quoi, on va en sortir, quoi. Puisqu'on ne peut pas, on peut pas réparer.
On ne peut pas réparer.
Il faut, l'Europe est irréformable.
C'est ça, pour moi, il y a deux choses, pour vous répondre clairement. Et je déteste les gens qui ne répondent pas aux questions, mais je pense que vous l'avez largement compris. Premièrement... vous savez, premier discours de Jean Monnet, son tout premier, il est président de la Haute Autorité, président de la Commission européenne, Jean Monnet. Il dit, Jean Monnet, cette Europe se fait, etc., elle est en train de se lancer, et il ajoute, il y a deux choses qui ne pourront jamais être révisées. Un, la supranationalité. Deux, le fédéralisme. Ça veut dire que soit on veut ça, et on est bien là-dedans, on continue l'aventure, soit on est contre, et on se rend compte que depuis 1950, et le traité de Paris et le traité de Rome par la suite, rien ne peut être réformé, puisque c'est le code génétique de toute l'opération.
Bah, j'ai vu la pauvre Angleterre, que j'aime tellement, essayer de sortir. Oui. Ils essayaient, et j'ai vu donc ces forces européennes, qui existent en Angleterre aussi, saboter la sortie de l'Angleterre par le Frexit. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la Cour européenne des droits de l'homme, les Anglais. Ils
exactement. Et vous me coupez l'herbe sous le pied, si je puis dire, mais parce que c'est exactement ça, parce que c'est mon deuxième point, c'est que, en fait... Et moi, j'ai strictement rien à discuter avec des Frexiteurs, avec des Brexiteurs, pas du tout. Mais ce que je dis, et Boris Johnson, qui n'est pas franchement plus radical, si vous lisez ses mémoires, là, son bouquin de l'année dernière, je crois, il revient sur, il y a quelques phrases très intéressantes sur la façon dont l'État profond à l'époque voulait faire la peau du Brexit. Ça veut dire que les hauts fonctionnaires anglais, qui étaient à coquiner avec Bruxelles, parce que ça fait maintenant années qu'ils y sont, ils ont préparé le coup pour dire à Boris, t'es gentil, mais ton Brexit, on va l'annuler. Ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas brexité. Ils ont brexité à moitié, ils sont arrêtés en cours de route, ils n'ont pas sorti de la CEDH, ils n'ont pas osé dénoncer un ensemble de choses, ils n'ont pas osé non plus fermer le banc complètement. Et en fait, depuis que Boris Johnson n'est plus là, ils jouent une espèce de pas de deux pour rester à moitié dans l'Europe sans vraiment le dire. Résultat des courses, il n'y a pas vraiment eu de Brexit.
Non.
Ce qui veut dire, j'en déduis une chose claire, je poursuis... l'envoi du courrier recommandé dont nous parlions à l'instant. Le problème du courrier recommandé, et je ne suis pas du tout le dernier à vanter l'idée du courrier recommandé, c'est que ce courrier sera annulé par l'intégralité de la bête qu'on a laissé grossir depuis les années 50, cette bête-là qui est cette constellation de petits hommes dont on connaît presque pas le nom, qui sont bien plus malfaisants que les Michel Barnier, à l'époque commissaire européen, etc. C'est eux qui vont tout faire pour annuler les effets de la décision qui s'est prise par celui qui veut vraiment sortir de l'Union européenne.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il
faut les mettre contre un mur et les fusiller ?
Bon, ici, j'ai cru comprendre qu'on peut se parler. Alors,
oui, même s'il y a des témoins.
Même s'il y a quelques témoins, effectivement. Alors... d'ailleurs de plus en plus, je vais vous étonner peut-être, je suis très optimiste.
Mais moi aussi. Parce qu'on arrive à la fin de la connerie.
Peut-être. Mais c'est déjà la dernière fois, vous étiez d'un optimisme que je ne partageais pas complètement. Et d'ailleurs, vous m'aviez dit, je vous donnais de l'optimisme. Alors que c'est vous, Charles, qui m'aviez donné de l'optimisme. J'en avais moins que vous. En fait, j'en ai plus qu'avant. Pourquoi ? Parce que finalement, je me dis...
Ils se heurtent au peuple, non ?
Oui.
On commence à voir les peuples remonter.
Oui, alors, d'une part, parce que l'époque n'est plus la même. Ça se voit. C'est-à-dire, la connerie abyssale, les contradictions, les paradoxes, le suicide se voit. Et il se voit tout le temps.
Tous les jours, partout.
Je crois que là, il y avait une étude cette semaine, me semble-t-il. Les Français, il n'y a jamais eu une défiance à ce point-là. Une défiance n'a jamais été observée par les Français à l'égard de l'Union européenne et des projets européens. Bon, en même temps, heureusement, parce que là, je veux dire, ça crève les yeux.
Et on avait voté contre.
Il y a eu, évidemment, on ne revient pas là-dessus, mais 2005, 2007, Lisbonne, je veux dire, c'était de la folie furieuse. Mais ensuite, parce que je m'aperçois aussi qu'à force d'avoir là jeté un œil sur les biographies, sur les parcours, sur ces petits hommes. Vous savez, il y a un type que je trouve passionnant dans mon bouquin, qui est un petit architecte du mal. C'est Adolphe Touffet. Voilà un ex-footballeur.
Adolphe, il a déjà un beau prénom. Ouais.
Ça commence bien. Un ex-footballeur devenu juriste à la solde de l'Europe alors qu'il est juriste en France, qui se fait nommer, évidemment, à Luxembourg, à la Cour de justice, et qui devient un prélat du droit européen. On a voué footballeur français, juriste français, il bascule au cours de cassation et puis il finit à la Cour de justice européenne. Donc il a réussi le coup. Et en même temps, vous savez ce qui me rassure ? C'est que demain, un président de la République élu qui décide de nommer d'autres personnes dans toutes ces institutions, il peut le faire. Dans un ensemble de domaines, il en a les compétences. Il suffit qu'il dise, demain, je liquide, entre guillemets, je remplace l'état profond qui m'empêche de faire le job. D'une certaine manière, c'est ce que Donald Trump tente de faire K1K aux États-Unis. En tout cas, il a amorcé une réflexion là-dessus qui fait qu'aujourd'hui, les gens nous disent « Mais il est fou, il est fasciste, etc. » Il est Non, pas du tout. C'est qu'il a compris que l'état de droit était devenu l'état de droit de l'état profond.
Oui.
C'est ça la réalité désormais.
La réalité, tout à fait.
Et que la démocratie, c'est le contraire de l'état de droit lorsque l'état de droit rime avec état profond.
Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on le trouve dans tous les pays du monde. Quelque chose qui... Vous avez les trois pouvoirs de Montesquieu, tout le monde sait ça. Et il s'est développé dans les 50 dernières années un quatrième pouvoir, qui est le pouvoir des petits hommes gris. Vous savez, qui sont maintenant des dizaines de milliers, qui se parlent les uns aux autres, qui ont accès à des budgets que personne ne contrôle, et vous pouvez pas vous empêcher que c'est ces gars-là qui bloquent tout. Et les nôtres, ils sont aux États-Unis, ils étaient très visibles, mais les nôtres, ils sont tout aussi visibles. Vous les voyez à l'action à Bruxelles, vous les voyez partout. Donc, on a quand même aujourd'hui une classe qui correspond au Parti communiste soviétique dans les 10 dernières années. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans les années d'Andropov.
Oui, absolument.
Et ça va, on sait que ça va s'écrouler.
Oui. On est à la fin de l'Empire soviétique.
On est à la fin de l'Empire soviétique. On sait que ça va s'écrouler parce que il y a la légalité, il y a la légitimité. Ils ont peut-être la légalité, mais ils n'ont plus aucune légitimité. Tout le monde les déteste.
Il y a d'ailleurs un correctif qu'il faudrait que beaucoup de gens... Je sais que vous l'apportez régulièrement et vous avez tellement raison de le faire, pour le coup, parce que je partage votre avis complètement. On a souvent le mot libéral à la bouche quand on parle de l'Europe, etc. Pas du tout.
Mais c'est tout sauf libéral.
L'Europe, en réalité, a une armature qui parfois semble libérale parce que au niveau du marché ou de l'ouverture, etc., ça je veux bien l'entendre. Mais son fonctionnement et sa raison d'être, elle est littéralement soviétique. Elle ressemble à un empire uniquement technocratique. C'est-à-dire que c'est l'inverse même d'un empire libéral.
Ça n'a rien à voir. On voit justement la novlangue, si vous voulez, c'est que la seule sortie peut-être que de rendre la liberté aux citoyens, donc être libéral, et on a réussi à diaboliser le mot libéral. Ce qui veut simplement dire celui qui préfère la liberté à l'esclavage. Quoi. C'est tout ce que ça veut dire, libéral.
Ah oui, mais quand on ne sait plus du tout ce que c'est une liberté classique, qu'on ne se bat même plus pour les défendre et qu'on mélange tout dans l'empire des libertés d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la liberté des anciens, etc.
Ben, par exemple, moi j'ai été scandalisé quand on n'a plus pu aller à la messe pendant le Covid.
Absolument.
Je crois dans l'histoire de France, ça s'était jamais passé. Chaque fois qu'il y avait eu des épidémies, on faisait des processions, comme ça tout le monde l'attrapait.
Oui, non, mais absolument.
Non, mais on avait le moral, quoi.
Ah, absolument.
On mourait béni, c'était bien.
Vous savez, à l'époque, j'ai pris le Covid, la sortie du Covid aussi de plein fouet, parce que moi, avocat, quand même, je me disais, dites, vos libertés de circulation, enfin, l'attestation auto-établie pour sortir de chez soi,
je
trouvais ça déjà un peu cinglé. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries, disons-le.
Oui.
Mais en plus, juste sortir de Covid, on a tout d'un coup eu l'accélérateur auteur qui a été, on a mis le pied sur le champignon d'une chose dingue, qui était la liberté de changer de sexe. Vous vous rappelez la liberté de changer de genre?
Ça, c'était...
Et donc, moi, je me disais, attendez, qu'on soit pour ou contre, c'est même pas le sujet. C'est qu'au moment même où on auto-établit une attestation pour avoir le droit d'aller dans la rue, on découvrait une espèce de droit magique qui était la liberté de changer de sexe et de rechanger de genre. Parce qu'en fait, on a le droit de devenir un homme, une femme, puis de redevenir un homme, etc. Cette liberté était chérie.
Par les sécurités.
Exactement. Cette liberté payée par la sécu, c'était merveilleux. Par contre, le type qui disait « Dites, je voudrais aller à la messe », va des rétro-satanas, hein, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Hein. Je veux dire, c'était lunaire, vous voyez, comme ratio entre libertés. Et ça, les fabricants d'état de droit... se rendent compte, ils le savent très bien, qu'ils conçoivent un état de droit avec des libertés échelonnées, où certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises, et les libertés changer. Classiques sont mauvaises.
Et ça peut changer, c'est-à-dire qu'un jour, telle liberté est bonne, puis le lendemain matin, ils vous disent « Ah ben non ». Vous savez, c'était comme sur les photos de Staline, où il y avait tous les anciens, puis il y en avait un qui sautait de temps en temps, on refaisait la photo, il y avait le petit qui avait disparu. Et les libertés, c'est pareil, vous avez des libertés aujourd'hui. Si vous en parlez, tout le monde vous regarde comme si vous étiez un gros crétin, encore une fois, un patriote. Quoi.
Complètement. Écoutez, je vais vous raconter, là, je passe parfois un peu de temps dans les Vosges, pas loin de chez moi, et j'ai récemment un ancien qui m'a parlé du fait d'avoir le droit, vous savez, de faire soi-même sa gnoule. Vous voyez,
C'était le bouilleur de cru, ça.
Exactement.
Exactement.
Et donc, on discute un peu, etc. Et il m'explique l'arrivée de la norme qui a interdit les bouilleurs de cru. Et alors, je lui ai dit, mais quel était l'objectif? Et il m'a dit, c'est très simple. C'était en raison de la contrebande. Et il me donne comme exemple, il y a quelques litres de gnoul qui circulent par-ci, par-là. Et pour ça, il fallait une règle pour interdire la chose, etc., etc. Ce qui veut dire
c'est toujours pour votre bien.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est au bout du compte, tout au bout de cette chaîne, c'est toujours pour notre bien qu'on a inventé une réglementation folle dont les philosophes de la réglementation, c'est les vrais maîtres dont je parle, les types qui, il n'y a pas que les grands juges, hein, toute cette idéologie qui a fait que, marche par marche, ils ont considéré que tout ce qui est entravé, c'était bien, tout ce qu'ils laissaient faire était mal, tout ce qui était interdit, c'était bien, tout ce qui était naturel, c'était mal. Donc le peuple, évidemment, qui est le souverain par nature, c'est logique. Puisque nation, peuple, langue, tout ça va de pair. Il a fallu tout d'un coup que ces gens disent « Non mais attendez, tout ça est
nation,
trop naturel. »
Nation, peuple, langue, et tout ça, maintenant, tout ça c'est naturel. C'est des droits naturels. Et puis vous avez l'État.
Oui.
Et l'État qui a été créé, quelque part, ça a été créé, si vous voulez, parce que c'était un mal nécessaire, parce qu'il avait le monopole de la violence légitime, de façon à protéger, etc. Et cet État... est en train d'essayer de coloniser la nation, le peuple, la patrie, vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on est dans un truc qu'on a eu au 19e et au 20e tout le temps, une tentative de contrôle par les gens de l'État, qui idolâtrent l'État, de nos libertés.
Complètement. Et dont l'Europe est le...
Et l'Europe est le porteur de cette contrainte.
Absolument. Et absolument, vous savez, Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne, ex-militant nazi, exactement. Juste, je fais une petite, parce qu'on me le dit aussi, on me dit, mais c'est pas vrai, il était membre d'associations nationales socialistes qui étaient obligatoires. J'ai dit, non. Il était membre d'une dizaine d'assauts, associations à peu près. Dans la dizaine, il y en avait 4 ou 5 qui étaient parfaitement facultatives. C'est-à-dire qu'il a voulu adhérer à des associations nationales socialistes. C'est pas très compliqué à comprendre. Bah, ce brave homme, dans les années 60, président de la Commission, il a deux rêves. Il en a d'autres, mais il a deux rêves européens. Premièrement, il veut une constitution européenne, parce qu'il veut figer dans le marbre des règles une bonne fois pour toutes, parce qu'il se prend lui-même pour le chef d'un État. Et deuxièmement, il veut que cette constitution soit le constituant d'un État fédéral. Ça veut dire que dès le départ, constitution,
mais
État fédéral,
avec l'armée,
point barre.
Vous souvenez, la bagarre.
Et voilà, exactement. Et la CED, enfin la Communauté Européenne de Défense, la bagarre folle, qui était aussi, dès les années 50, une envie de faire du fédéralisme larvé, fédéralisme par la bande, pour nous entraîner vers la catastrophe. Aujourd'hui, quand j'entends dire Europe de la Défense, que je vois Macron, Ursula, etc. bouger, je me dis, dites, allez jeter un œil à mon bouquin, je rappelle ça quand même. À l'époque, je me doute que Macron a autre chose à fouetter et qu'à mon avis, il n'aura pas franchement envie de le lire.
Je ne suis pas sûr qu'il sache lire.
Je veux dire, je vous assure que quand vous reprenez, vous savez, je ne savais pas, très honnêtement, je ne savais pas que quand Michel Debré a découvert le fin mot de l'histoire sur l'Europe de la Défense, qui était que l'Europe voulait réquisitionner les écoles militaires françaises. Ça veut dire que dans le traité, il était spécifiquement prévu fédéralisme d'emblée sur les questions militaires et d'autre part, réquisition
donc,
des écoles.
Donc Saint-Cyr, tout ça.
Exactement, Saint-Cyr, chuit, à Bruxelles. C'était prévu dans le traité.
Si vous mettez à ce moment-là, la plupart des officiers en France, si vous voulez, ils sont quand même de Vendée. Hein. Ils arrivent de la Vendée ou parfois de Versailles, mais les gars de Saint-Cyr, quoi. Donc, il n'y aurait pas eu beaucoup d'officiers français.
Ah oui, mais ça, absolument.
Il y aurait peut-être eu un truc qui serait fait aller du côté du Puy du Fou, une école militaire sauvage, il y aurait eu plein de gens dedans, alors que l'autre, elle aurait été vide. Oui. Mais je veux dire, c'est.
Mais ça vous dit quelque chose de la trahison?
Mais c'est extraordinaire, cette trahison. C'est ça qui me surprend le plus. Moi, c'est des gens intelligents. Et alors, à ce moment-là, aussi, qui est très présent dans toutes nos sociétés, qui est nouveau pour moi, c'est quand j'étais, quand j'avais votre âge, on discutait, on n'était pas d'accord, mais il y avait, ça restait poli, ça restait. Oui. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce qui me sidère, c'est que les gens vous insultent. Vous n'avez pas commencé à parler. Qui vous disent que vous n'avez pas droit à la parole, que vous êtes un fasciste, un nazi, etc. Donc, il y a eu, en même temps que cette trahison, une espèce de capture des outils du langage pour vous empêcher de parler aux autres. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. C'est pour ça que je suis très content d'avoir cette, ce que ma fille m'a créé là, vous savez, mon petit truc, parce que je dis mes bêtises tout tranquillement dans mon coin. Mais ça me soulage, quoi. Et du coup, je suis d'assez bonne humeur. Mais si je ne pouvais pas le dire, je serais dans un état de rage.
Mais écoutez, vous savez, parce que j'ai mon cabinet que je gère comme je peux, etc. Oui. Et on me dit, mais pourquoi tu t'emmerdes?
On le dit tout le temps.
À quoi bon? Et surtout, on me dit, tu pourrais faire, tu aurais plus de clients, tu aurais plus de liberté pour exercer autrement. J'ai dit, attendez, je suis désolé, à un moment, il faut que ça sorte. Vous voyez, en fait, c'est insupportable. Et je me dis, si on n'ouvre pas à un moment, s'il n'y a pas quelques coups de bélier à mon maigre niveau, hein, mais au bout d'un moment, on n'y arrivera jamais. Et j'ai pas envie de voir mon pays crever parce que personne ne dit rien.
Je vais attraper un arrêt du cœur tellement je suis en colère. Bien sûr. Le simple fait, moi, je dis aux gens pourquoi ils me demandent pourquoi j'écris, je leur dis parce que ça me soulage, tiens.
Oui. Voilà.
Ça me soulage, c'est tout, parce que ça, au moins, je dis des trucs. Et vous savez, c'est une vieille histoire que m'a raconté un vieux rabbin. Je suis pas juif, mais enfin, j'aime bien les vieux rabbins. Et il me disait, il y a le diable qui a décidé, il en avait marre de la terre, il a décidé de vendre tous ses outils. Vous savez, ça le fatigue. Et donc, il y a tous les outils de la luxure, tout ça. Les gens les achètent et tout. Puis un truc tout pourri dans un coin. Et une machine toute pourrie, il y a le type qui demande, le client, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ou il dit, celui-là, ça, c'est le plus cher. C'est à quoi bon?
À quoi bon? Oui, absolument, le plus cher. Oui. Excellent, elle est excellente. Oui.
Vous ne trouvez pas?
Excellente, oui, excellente.
Et donc, ce qu'on essaie de faire, vous et moi, c'est, on gueule,
oui.
Vox Clémentine Desertie, mais on s'en fout.
Oui, absolument, mais à un moment, il faut y aller. C'est-à-dire, si ces hommes-là, je les débusquais pas, je ne dis pas que je veux dire que tout le monde va me lire de France et de Navarre. C'est pas le souci. C'est que si on diffuse pas l'idée qu'on puisse s'attaquer que on puisse désigner l'ennemi, en tout cas l'adversaire, que la cible soit pas montrée.
En fait, là, c'est un ennemi.
Oui, je crois qu'on peut le dire là.
C'est pas l'adversaire, parce que c'est pas. Dans le temps, je me souviens, il y avait des discussions entre Raymond Aron et puis un autre professeur. J'aimais bien, ils n'étaient pas ennemis, ils discutaient, c'était sympa. Mais là, ce sont des ennemis. Ce sont des traîtres.
Oui, c'est vrai, ce sont des traîtres, il faut le dire. De toute façon, vous savez, déjà toutes ces discussions juridiques sur la souveraineté partagée, ça n'existe pas. Il y a un souverain, un maître, point. Et deuxième chose, ça veut dire que ils ont, et ça j'ai découvert vraiment, c'est que je m'attendais, je vous avoue, à moins de... Je pensais pas que la filiation était aussi nette. Je pensais, vous voyez, que c'était un peu diffus, que ça...
C'était un peu des hasards,
quelques accidents. Ah non, non. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand vous rendez compte, il y a un moment où je le fais dans le bouquin, c'est un ami qui m'a dit de faire ça, qui m'a dit, Guilin, ton bouquin, c'est de la bombe. À un moment, tu devrais rassembler ces hommes pour montrer vraiment les points de jonction. Et on s'aperçoit que l'un est directeur de cabinet du premier, que le premier a remplacé le troisième, que le troisième était le copain du quatrième, que le quatrième, il était copain du cinquième, qui est directeur de cabinet du troisième. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez le comité d'action Jean Monnet, les mouvements européens, les différents cours suprêmes qui vont se monter, les juristes qui y sont, les ministres de la justice de la 4e République et par la suite, qui vont s'autonomer, s'auto-retrouver, etc., etc. Vous avez la constitution de cette espèce de monde. Si on ne montre pas ce monde et on ne comprend pas comment ça s'est passé, si demain on liquide l'appareil comme je rêverais qu'on le fasse, on aura de nouveau les mêmes problèmes, on va recommencer avec l'un, qui va nommer l'autre, qui va recommencer avec l'autre. Ils sont déjà préparés pour ça.
Dans Tocqueville, tous les hauts fonctionnaires dans l'ancien régime de la Révolution, tous les hauts fonctionnaires, ils ont traversé la Révolution, ils ont servi là, et puis on a eu le pouvoir des fonctionnaires en sortant, quoi. Rien n'avait changé. On était passé par la Louis XVI, la Révolution, l'Empire, hop, et à la fin, c'était toujours les mêmes. Donc, il faut...
S'il n'y a pas quelque chose à ce niveau-là, une révolution globale sur l'état profond et les petits hommes qui verrouillent l'appareil, on n'y arrivera pas. Alors on fera la politique à la petite semaine qui nous entraîne au fond, et on voit très bien, ça n'a littéralement plus aucun intérêt en réalité.
En réalité, oui, la politique qui se passe à Paris, etc., ça ne veut plus rien dire, puisque nous ne sommes maîtres de rien.
Oui.
Donc, en principe, la politique, si vous voulez, c'est de changer les choses.
Oui.
Mais si vous n'avez pas le contrôle de la monnaie, pas le contrôle des frontières, pas le contrôle du budget, pas le contrôle de l'armée, pas le contrôle de la police et pas le contrôle de la justice, bonne chance, hein. Changez, les gars.
Vous êtes cul nu et vous attendez que le maître vienne distribuer les bons points. C'est exactement ça.
Mais écoutez, moi, continuez à écrire, hein, parce que c'est bien ce que vous faites. Puis surtout, c'est un domaine où mon ignorance ne le dispute que mon incompétence. Donc,
Vous savez, c'est la ruse réelle de genre de bouquin. C'est ce que j'essaie de pas faire. C'est que d'habitude, c'est illisible. Résultat des courses, personne ne lit. Et vu qu'on ne lit pas, on ne sait pas. Vu qu'on ne sait pas, on laisse les sachants faire. Et moi, je dis, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. C'est qu'il faut extirper ces espèces de prétendues technicités pour les montrer au public, que les gens lisent et qu'ils se rendent compte que finalement, le droit, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris globalement que c'était, je m'excuse du terme, une enculerie générale qui a été fondée ainsi, on peut ensuite comprendre. Mais vu que tout a l'air trop compliqué, personne ne lit et on laisse les gens, vous voyez, on laisse la machine aller toute seule.
Oui,
c'est terrifiant.
Parce que tous ces gars-là, si vous voulez, c'est quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est presque toujours des gens qui feraient très plaisir à une belle-mère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est le gendre parfait. C'est le genre de parfait, il fait une carrière dans la haute fonction publique, il passe à l'étranger. Mon Dieu, c'est des gens dont on serait content d'avoir en sa famille.
Oui, mais vous savez, je sais que je suis un peu plus jeune que vous, mais je le dis clairement, moi je suis bien ici, vous voyez. Je comprends très bien cette notion de gendre idéal, comme vous le dites, mais vous savez, il y a des gens, et je pense d'ailleurs de plus en plus, en tout cas ça existe, il y a des gens qui ont juste envie de servir le pays et de rester ici. D'être heureux d'être ici.
Moi je suis tout à fait comme ça, et j'ai... Je suis en tant que vieux joueur de rugby, vous savez, quand les choses deviennent très difficiles sur le terrain, l'entraîneur nous disait de temps en temps, faut ouvrir la boîte à claques.
Oui.
Eh ben, je crois qu'il faut ouvrir la boîte à claques. Le temps est venu de distribuer les claques.
C'est probable. C'est probable.
Donc, vive le temps des boîtes à claques.
Vive le temps des boîtes à claques.
Merci infiniment. Vous pouvez pas savoir comme ce genre de... Ça me fait plaisir parce que on voit qu'on n'est pas tout seul.
Oui.
Chacun dans notre coin, on travaille dans notre coin. Moi, c'est plutôt l'économie ou la géopolitique. Vous, c'est le droit. Eh ben, c'est très bien.
Oui, et ça nous permet de nous revoir et de faire des moments. Vous savez, on a des bons moments dans la vie. Parce que c'est un bon moment.
Voilà, c'est un bon moment. Et moi, il y a quelque chose qui ne trompe pas, si vous voulez. C'est que je ne suis plus invité à Paris dans un seul dîner en ville.
C'est bon signe.
C'est très bon signe.
C'est vraiment un très bon signe.
Mais c'est rigolo.
Mais c'est oui, effectivement. Oui. Mais c'est en même temps, c'est la logique.
C'est la logique. Oui. Parce que ils se défendent par l'exclusion. Vous savez, l'exclusion sociale. Doucement, doucement. Ce type, on peut pas lui faire confiance. Vous savez, il est. Donc, il faut pas gloire révoltée.
Oui. Je vois. À mon avis, ça me touchera aussi. Ça ne saurait tarder, mais pour l'instant. Pour l'instant, ça dure encore un peu. On verra si un jour je serai excommunié à ma façon également. J'attends de voir.
Oui, mais ça, j'ai pas le moindre doute. À moins qu'on les fasse sauter avant.
Oui, peut-être, peut-être.
À ce moment-là, vous deviendrez très célèbre. Et tout le monde voudra vous inviter. Vous ne faites pas de sujet. Vous ne faites pas de soucis. Si on réussit à les faire sauter, vous verrez les dîners en ville. Vous serez obligé de les accepter. Il y en aura tellement.
On les organisera ensemble.
Voilà. Merci mille fois. Parce que, bon, ben. C'est très bien parce que ça prouve qu'il y a des gens, si vous voulez, je reçois le bon père Milan, je vous reçois vous, je reçois d'autres personnes. L'idée, si vous voulez, c'est que l'esprit souffle là où il veut. Et il est en train de souffler dans notre sens et plus du tout dans le sens de nos adversaires. Mais ça, je trouve ça au poil.
Absolument. Le renversement est en marche d'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord avec vous.
Oui, c'est essentiel. Mais c'est bien grâce à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.